Donc, comment lancer par Patricia? Cette présentation a été pensée en parallèle à la sienne pour des raisons suivantes. Le cas de Rudolf Laban et de sa vision de la danse moderne pose aux chercheurs des questions méthodologiques et théoriques qui ont plusieurs points en commun avec la trajectoire personnelle et professionnelle de Serge Liffard. Et dans le cas de Laban, en tant que le cas de Liffard, les croisements multiples entre récits historiques et parcours de la mémoire ont mené à des lectures assez différentes de leur vie et de leur carrière. Je vous propose donc un focus sur l'historiographie labanienne en suivant la même tripartition de la présentation de Patricia, identité, archives et mémoire, mais en mettant au premier plan quelques questionnements méthodologiques qui pourraient nous aider à réfléchir sur les enjeux contemporains de la recherche en danse. Donc, premier chapitre, identité. Rudolf Laban est l'un des noms les plus connus de la danse occidentale. Il a acquis une centralité reconnue dans les histoires de la danse qui ont structuré ce champ de recherche. Et il a été aussi l'objet de nombreuses études monographiques à partir déjà du 1929, donc quand il était en pleine activité. Il a été danseur, chorégraphe, théoricien du mouvement, écrivain, pédagogue, organisateur théâtral, inventeur d'une nouvelle méthode de notation de mouvement, peintre, caricaturiste, conseiller pour l'industrie, etc. Son influence, que l'on estime décisive pour la naissance et la diffusion de la danse moderne, est toutefois le fruit d'une carrière autant extraordinaire que controversée. Le cas de Laban a également contribué à la construction du discours historique autour de la danse moderne en renforçant son statut d'art révolutionnaire sur le plan esthétique, progressiste sur le plan social et génériquement apolitique. Dans l'historiographie labanienne, mais on pourrait étendre cet aspect à toute l'historiographie de la danse moderne occidentale qui s'est profilée au cours du XXe siècle, le manque de distinction entre rôle et compétences spécifiques dans le domaine de la recherche en danse est une conséquence de cette contingence. Chorégraphes, danseurs, critiques ont souvent transformé leurs expériences personnelles et leurs mémoires en récits historiques. L'expérience de l'exil et la possibilité de se représenter dans un nouveau contexte géographique et culturel, loin des lieux de son passé, a joué un rôle majeur dans la création de l'aura mythique autour de Laban et de son activité pendant son séjour en Suisse et en Allemagne dans les années 10, 20 et 30. Une aura qui a rendu difficile retracer sa pensée artistique et son idéologie. Mais qu'est-ce qui était Rudolf Laban? Dans d'autres occasions, j'ai analysé quelques aspects méthodologiques de la riche bibliographie autour de sa personne et de son activité. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de partir de deux œuvres assez récentes qui cherchent à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'était Rudolf Laban et qu'est-ce qu'il a fait? Pour continuer cette réflexion, j'avais préparé un PowerPoint, mais il y a un petit problème. Mais c'est les deux volumes que je vous propose d'analyser. Assez différents l'un des autres, ces deux volumes sont exemplaires des implications de la mémoire dans l'écriture de l'histoire. Ils sont aussi révélateurs des problématiques engendrées par des différentes significations que le terme théorie assume dans des contextes variés, à la fois pour le travail de l'historien et du danseur praticien. Les analyser ensemble portent en surface leur fonctionnement en contrepoint qui serait potentiellement très enrichissant pour l'avancement de la recherche autour de l'univers labanien. Le premier volume, il a paru en 2011, le The Laban Sourcebook, est aux soins de Dick McCow, qui est un ancien élève d'une collègue de Laban et spécialiste du théâtre. Il s'agit d'une anthologie de textes de Laban commentée de façon concise par un groupe de personnes définies en tant que Laban Scholars, choisies sur la base de trois critères. Avoir connu Laban personnellement, deuxième, avoir étudié avec lui, troisième, avoir dansé ses pièces. Unique exception, deux chercheuses allemandes, Evelyn Dörr et Stephanie Sachsenmeier, qui ont croisé la bande dans leur parcours universitaire dans deux départements de théâtre et du spectacle. L'introduction, donc celui-là, il a édité par Routledge, donc une grande diffusion dans le monde anglo-saxon. L'introduction de ce volume, qui se présente comme une panoramique extraordinaire, je cite, des intérêts multiples de Laban, est signée par Sylvia, le fils de Sylvia Bodmer, ancienne élève et collaboratrice de Laban. Et il se sent, cet auteur aussi, officiellement autorisé à en parler grâce à cette filiation directe. Le but de ce volume est déclaré par son curateur, traduire des textes à la fois inaccessibles pour un large public en étant écrits en allemand, de Laban évidemment, ou des textes et des images accessibles seulement dans les archives en tant que texte en édit. Mecco affirme donc que le volume vise à donner l'exemple le plus clair de la pensée labanienne. Les textes choisis sont la spécialisation, selon la spécialisation des différents collaborateurs. Chaque collaborateur a été chargé de choisir des textes et de les commenter dans deux pages et de les présenter. Donc, sont enchaînés les uns aux autres, suivant uniquement une logique chronologique, et ils figurent comme le fruit d'une sélection d'auteurs. La qualité assez variée de ces sources et les origines, et leurs origines, il s'agit de passages de correspondance, parties de livres ou articles de Laban, extraits de la critique de l'époque, n'est jamais problématisée, et la bibliographie conclusive qui a été rédigée pour fournir une série de titres aux lecteurs qui souhaiteraient approfondir quelques-unes des thématiques introduites dans ce volume est largement lacunaire. De plus, l'absence de nombreux titres est autant éloquente que la présence de la littérature labanienne dite canonique pour cette mouvance. Le deuxième volume, celui-ci, il a paru l'année dernière, 2013. C'est Rudolf Laban, Man of Theater, de Valérie Preston Dunlop, l'un des noms le plus connu de l'univers labanien. Et il a été publié par Dance Book. Il s'agit d'une monographie, en ce cas, qui s'appuie entre autres, à The Laban Sourcebook, donc les deux volumes sont liés l'un à l'autre, et qui est consacré à illuminer la pratique chorégraphique de Laban, qui est un des aspects le moins étudié de son activité, le moins connu aussi. Il présente le travail de recréation d'un corpus de pièces chorégraphiques des années 20 de Laban, qui a été fait au Trinity Laban Conservatory of Music and Dance, la nouvelle version de Laban Center, par une équipe dirigée par Valérie Preston Dunlop. Les œuvres qu'on analyse dans ce volume sont Schwingenden Tempel, 1922, Kammertanz, solo et duo, donc une sélection de solo et de duo de la Kammertanz de Laban, Nacht, la nuit, 1927, et Die Grünen Clown, du 28. Donc, Preston Dunlop a dirigé l'équipe engagée dans cette recréation, c'est ça qu'elle a, la définition qu'elle a choisie pour cet engagement avec la récupération de ce patrimoine chorégraphique. Et aucun membre de cette équipe a une formation spécifiquement historique. Ces recréations ont été filmées et fait objet de documentaires et de reprises de ces recréations. Et on peut les acheter à part en version DVD. Preston Dunlop a conçu le volume comme un outil pour diffuser cette expérience, la sienne, et cette vision sur l'œuvre et la pensée de Laban, Laban à un large public. Et le présente, ce livre, comme très important pour les historiens de la danse et les danseurs ou les praticiens de Laban, en soulignant que cette vision n'a aucun fondement dans la vision labanienne, qui au contraire envisage une interaction stricte entre théorie et pratique. L'apparat iconographique est défini, qui est riche dans ce livre, est défini par Valérie Preston Dunlop comme essentiel pour connaître la pensée pratique et la pensée chorégraphique de Labanne. Et les enregistrements vidéo de ses œuvres sont proposés comme un outil capable de mettre le lecteur d'aujourd'hui en condition de, je cite, « juger par lui-même la valeur de l'art chorégraphique de Labanne ». Pour définir sa démarche, Preston Dunlop parle de « practical historiography », mais sans faire mention de nombreuses solutions méthodologiques et des approches théoriques à ce qu'on a la tendance aujourd'hui à nommer le « cosmo du reenactment ». Donc, il n'y a aucune relation avec des autres approches à la recherche dans cette démarche. Ces deux volumes ont été publiés grâce au soutien de deux grandes maisons d'édition qui ont une réputation remarquable pour la diffusion des études en danse et qui offrent une large diffusion à leurs produits. L'institutionnalisation de ce genre de démarche de la recherche semble donc avancer de façon parallèle, c'est-à-dire sans aucun point de tangence, avec les études en danse informées par des disciplines historiques, ou plutôt les études axées autour de réflexions théoriques et méthodologiques sur la recherche en danse. Ils sont donc le fruit de ce que Laure Guilbert a défini le cercle magique des filiations directes du maître, et ils confirment que le savoir pratique et les mémoires personnelles et collectives de la mouvance labanienne se posent à une distance de sûreté par rapport au débat que les études en danse ont de plus en plus accueilli et relancé en dialogue avec d'autres horizons disciplinaires. En particulier, je soulignerai que ces deux volumes sur Labanne nous donnent l'occasion de vérifier comment des récits historiques et des mémoires corporelles se forment, se croisent, se transmettent. D'un côté, le titre de Laban Sourcebook nous oblige à nous questionner sur qu'est-ce que c'est qu'une source pour la recherche en danse et dans la recherche en danse autour de Labanne. Ce sont des textes publiés, ce sont ses notes inédites, ses notations chorégraphiques, ses dessins, des croquis, les photos, ses mémoires, ses lettres personnelles, les écrits de ses élèves, les écrits de la critique de l'époque, leur mémoire, la mémoire des élèves et ses collaborateurs, ou encore la pensée en mouvement qui caractérise son approche à la danse, ses traces pédagogiques, etc. De l'autre côté, le volume de Preston Dunlop et son travail de récréation des œuvres chorégraphiques de Labanne rentrent dans le genre de relecture contemporaine et nous offrent la possibilité de mettre à feu le rapport entre corps, mémoire, archives, répertoire dans le discours historique. Archives. Labanne a collectionné un nombre consistant de documents pendant toute sa vie, sauf les avoir dispersés à cause de ses déplacements fréquents, de sa façon impulsive d'avancer dans le travail, ou de son départ soudain d'Allemagne. Ses difficultés économiques et logistiques pour les retracer après la Deuxième Guerre mondiale ont été mentionnées par les premiers chercheurs engagés en écrire son histoire. Et la découverte de fonds qui concernent en particulier son activité culturelle et artistique sous le Troisième Reich ont été au centre de débats, pour ne pas dire de polémiques, à partir des années 90. Donc le questionnement des archives labaniennes, leur accessibilité et leur importance pour comprendre sa pensée et sa démarche artistique n'est certainement pas une question épuisée. Et une des directions à suivre pour approfondir ce niveau de la recherche, ainsi que pour jeter un pont entre le parcours de la mémoire et discours historique, est celle qui récemment a été indiquée par des chercheurs de formations différentes. Qu'est-ce que l'on doit ou l'on peut considérer comme un archive dans le cas de la danse ou de la performance? Rebecca Schneider suggère que la transmission corps à corps est caractérisée d'une pratique de la répétition, et donc que la performance, des danses aussi, est un moyen de porter le passé dans le présent. De cette perspective, on peut penser à la performance et à la danse comme un véritable archive. De l'autre côté, Inge Baxman, une autre chercheuse engagée en plus avec en particulier la mouvance de la danse moderne en Allemagne, considère les corps comme les lieux de mémoire et le corps en mouvement comme une des formes d'archivage. Joseph Roach, un chercheur américain, a étendu le concept d'archive au au solide corps en mouvement qui fonctionne comme une réserve mnémonique, c'est-à-dire quelque chose qui est sujet de transposition et traduction dans le passage d'un corps à l'autre et d'une dimension temporelle à l'autre. Donc l'idée que le corps en mouvement et ou la performance soit liée au processus de transmission de la mémoire à la fois individuelle et collective est en général à la transmission du passé a gagné une centralité remarquable. Il y a un texte en particulier de Diana Taylor, de The Archive and the Repertoire, qui nous propose un modèle plus complexe et problématique, mais assez stimulant. À son dire, le répertoire reproduit la mémoire incorporée, donc les performances, les gestes, ainsi que l'oralité, les mouvements, le chant, la danse. Et elle fonctionne comme un savoir pratique éphémère et incorporé, c'est-à-dire le langage parlé, la danse, le rite. Ce genre de mémoire, le répertoire, s'oppose au savoir dérivé de l'archive écrit, non incorporé, du matériel supposé comme stable, les textes, les documents, les édifices. Selon Diana Taylor, le répertoire est un lieu où l'on ne revit pas une expérience du passé, mais on la reconstitue. De cette perspective, il y a moins de distance, à son avis, entre l'archive et le répertoire que l'on puisse imaginer. C'est-à-dire que les formes transmises du passé sont reçues comme des éléments du temps présent. Et on ne peut pas échapper à cette sorte de réalité. La tension entre l'utilisation du terme « répertoire » au sens étymologique et celui diffusé dans les milieux théâtrales, c'est-à-dire une série de pièces ou rôles que le danseur a interprétés ou une série de pièces présentées régulièrement par une compagnie de théâtre, est forte. Donc, dans la vision de Taylor, le répertoire est quelque chose de vivant et écrit dans les corps et les possibilités de transmettre le mouvement dansé, en ce cas, et rentre en tension avec l'idée de du répertoire comme on l'a acquis dans la pensée théâtrale et en Occident. Donc, dans un premier cas, le répertoire est le lieu lié à la mémoire incorporée d'un danseur, et dans le deuxième cas, est plutôt un patrimoine institutionnalisé et institutionnel. Donc, comment regarder au cas de Laban à partir de ces suggestions précises ? Certainement, l'œuvre chorégraphique de Laban a laissé moins de traces que son activité culturelle, intellectuelle et surtout pédagogique, et c'est là à cause de son départ de l'Allemagne, et en général à cause du vide créé autour de l'Ausdruckstanz dans l'après-guerre en Allemagne. Et si le volume de Laban's Sourcebook comble un vide évident jusqu'à maintenant, la majorité des écrits allemands de Laban n'ont pas été traduits en anglais et donc leur diffusion a été assez limitée. La pensée de chorégraphique de l'autre côté de Laban est pénétrée le long de la transmission de son analyse du mouvement, donc le long de ce que Diana Taylor appellerait le répertoire, mais est restée en dehors de la transmission institutionnelle. Elle n'est pas restée dans le répertoire théâtral allemand et ensuite. Les récréations des œuvres de Laban de la part de Preston Dunlop comblent donc ce vide en retraçant une partie de son patrimoine chorégraphique à partir de la mémoire incorporée des anciens danseurs et des élèves de Laban qu'elle considère en tant que, elle le dit, archives vivantes. En ligne avec d'autres approches à la préservation de l'héritage des œuvres chorégraphiques des avant-gardes, je cite la Cunningham Foundation, par exemple, elle ne cherche pas l'authentique dans la version stable des premières représentations de ses œuvres chorégraphiques. Plutôt, elle recherche le processus chorégraphique et la nature expérimentale de ces pièces de Laban. C'est ça qu'elle veut mettre au centre de ses récréations et du sauvetage de cet héritage. Le corpus de titres des années 20 que Preston Dunlop a choisi de recréer est représentatif aussi d'une esthétique assez spécifique à l'intérieur du cosme de l'Ausdruckstanz. Il s'agit donc d'une sélection qui n'est pas neutre, mais qui reflète son engagement en tant qu'historienne de Labanne, dans le refoncement de l'image d'une modernité en danse limitée à l'époque dorée de la République de Weimar, et ensuite changée de sang par l'idéologie national-socialiste. Cette attitude est donc légitimée par l'autorité de la mémoire personnelle et corporelle de Preston Dunlop, grâce à son rapport direct avec Labanne et à son engagement avec la transmission de cette tradition. Patricia Veroli, aujourd'hui, nous rappelle le risque que l'abus d'une certaine mémoire résultant d'une construction qui, dans la répétition, atteint la fixité et la clôture, devient abus de l'oubli. Le danger pour une mémoire incorporée qui s'est fait atemporelle est de devenir, comme le suggère ailleurs Laure Gilbert, une mémoire sélective qui fonctionne au détriment de la conscience du travail, de l'histoire dans les corps et qui fabrique l'oubli. La question « qu'est-ce qu'il en est de la pratique et surtout de la pensée chorégraphique de Labanne pendant les années 30 » reste donc en dehors des horizons de ces deux volumes et renforce la posture d'une génération d'artistes qui n'ont pas cherché de se confronter avec le passé d'où ils venaient. Et en Allemagne notamment, la révolution esthétique du Tanztheater a revivifié le passé de l'Ausdruckstanz, mais en prolongeant la dimension légendaire au détriment de celle historique. La filiation directe de maître et élève d'un côté et les interruptions de la transmission du répertoire institutionnel de l'autre, face à un vide documentaire presque total pendant des longues années, ont participé à la construction de souvenirs partiels de formes chorégraphiques de la modernité, dont le livre de Preston Dunlop semble être un exemple frappant. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, plutôt d'un très récurrent aussi dans l'histoire de la danse occidentale. Je fais un autre exemple. Dans l'introduction à sa collection d'essais qu'elle a publiée en 1999, Yvonne Rainer avoue un certain embarras à se relire pour la myopie qu'elle y retrouve dans ses affirmations des années 60 et 70 concernant la modern dance. En particulier, elle admet qu'à l'époque, faute le manque de documentation disponible pour toute sa génération, elle n'avait qu'une vague idée de ce que faisaient Martha Graham et les autres protagonistes de la modern dance américaine dans les années 30, 40 et 50. Elle affirme que si elle aurait eu accès à ces documents vidéo ou à des reconstructions ou recréations de quelques pièces de cette époque, elle aurait probablement changé toute sa vision de l'approche grammienne, tâchée d'être lourdement psychologique et dramatique, c'est ce qui était dans les années 60 et 70. Elle aurait placé sa propre vision d'une danse antinarrative dans un parcours bien plus complexe de l'histoire et aurait problématisé la narration, même en danse, dans une optique différente. Ces deux volumes de Laban que je pris en exemple aujourd'hui risquent de représenter un modèle pour la recherche en danse où la mémoire, à la fois individuelle et collective, informe un récit historique qui, à son tour, encadre et soutient le travail de récréation axé autour de la mémoire incorporée. D'un côté, de Laban Sourcebook nous offre l'accès à un corpus de documents écrits mais sélectionné par une équipe forte de sa filiation directe avec Labanne et ouvertement défensif par rapport au regard de l'extérieur de l'univers labanien. De l'autre côté, Preston Dunlop avec Rudolf Laban, Man of Theatre, donne une systématisation théorique aux œuvres qu'elle a recréées œuvre chorégraphique qu'elle a recréée et renforce une circularité de la mémoire qui fait que la récupération d'un patrimoine chorégraphique soit transformée ensuite en matériaux d'archives, les DVD stables. Et cela pour soutenir une fois de plus des visions de Labanne et de son œuvre où le rôle et la fonction de la mémoire et de l'histoire et leurs multiples possibilités de relations ne sont pas problématisées. Merci.
Merci beaucoup, Suzanne. Y a-t-il des questions ? Moi, je me permettrais juste d'ajouter une observation. Quand on regarde, quand on travaille dans les archives du Trinity College consacrées à la BAN, qui ont été récoltées par Valérie Preston Dunlop aux quatre coins d'Europe et d'Europe de l'Est pendant les années 80, c'est très intéressant parce qu'elle a rassemblé un corpus d'archives d'une richesse incroyable sur la BAN. Et dans ces archives, il y a énormément d'entrées qui permettent de comprendre la complexité de l'entre-deux-guerres, les rapports au nazisme, aux politiques, etc. Et de ce corpus qu'elle a rassemblé elle-même, finalement, elle n'en sélectionnera que certains éléments qui seront utiles au développement de sa propre
narration.
Donc c'est intéressant, parce que tu parles de Yvonne Rainer disant qu'elle n'a pas eu accès à cette connaissance-là. Là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de comment conceptualiser, comment regarder la complexité de cette époque avec les outils de travail qu'elle avait aussi dans les années 80 pour essayer de construire un discours historique, ce qui n'était pas évident non plus, je pense. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle ait eu accès aux travaux faits sur les années 30 par les historiens du nazisme, par exemple.
Mmh.
Voilà.
Je suis moins d'accord sur le fait que ça soit un archive aussi riche, mais dans le sens où c'est un archive, enfin, il faut voir ce que c'est un archive, mais c'est un archive qui a été construit dans le temps et en prenant des matériaux d'autres archives,
oui,
sans déclarer la provenance. Donc c'est un archive, tous les archives sont mystérieux d'un côté, la stratification de leur formation est déjà ontologiquement un problème de cette archive-là. Mais elle a pris des documents, il y a beaucoup de photocopies, il y a aussi une systémation de ces documents qui, pour un historien qui se connaisse, peuvent sembler assez riches, mais qui ne mettent pas en condition, à mon avis, un chercheur qui soit déjà formé sur ces problèmes, d'en avoir clair la construction et la mission de cette archive.
Non, entièrement d'accord. On peut, quand on connaît les archives d'origine, d'où ces copies ont été faites, on comprend comment elle a travaillé.
Voilà.
Ouais. Mais la seule chose que je voulais mettre en avant, c'est qu'elle a eu accès à cette connaissance-là. Mm-hmm. Elle aurait pu en faire quelque chose.
Ah, c'est sûr, voilà. C'est sûr.
Donc c'est ça qui est intéressant, le travail de sélection du chercheur
son
champ.
Oui, oui, voilà, ça, on est d'accord. Et cette archive, maintenant, il va être enrichi par la présence de ces DVD, donc de formes stables de ces récréations. Donc elle est partie de l'idée qu'elle récréait une œuvre chorégraphique de Laban sans vouloir arriver à une forme fixe ou stable, mais sauver l'approche au mouvement et au processus chorégraphique de Laban et de le rendre vivant avec une équipe de danseurs, notamment de Trinity Laban et donc des danseurs d'aujourd'hui qui sont détachés de cette histoire, qui n'ont pas du tout ni l'intérêt ni la formation d'historien, mais qui sont dans la mouvance labanienne. Mais le fait d'avoir produit ces DVD qui restent en fait uniques se pose comme un supplément de cette archive stratifiée et qui a un but final assez clair et déclaré finalement aussi et l'absence de quelques livres est aussi assez frappant. Donc c'est un archive assez riche, mais il n'y a pas des utiles, c'est-à-dire les livres qui se posent en contre-champ, qui posent de gros problèmes méthodologiques à sa façon de faire l'histoire, ne sont pas présents dans la bibliothèque, par exemple. Ce qui pose un problème d'honnêteté par rapport à un espace public qui est la bibliothèque et l'archive d'une institution publique, à mon avis.
Allora, grazie. La stessa cosa, se puoi rispondere in francese. Io mi scuso con... di nuovo. A proposito di onestà, io vorrei parlare e vorrei chiedere come guardare ai manuali. Noi sappiamo che è molto difficile scrivere un manuale. Chi tra di noi, dico l'Italia sicuramente, in
manuale
Francia.
Manuale di?
Beh, manuali stiamo parlando
di
Routledge.
No.
Di Routledge. Quella collana include anche, per esempio, Pina Bausch per gli studenti. Laban è previsto per gli studenti. Allora, se dobbiamo parlare di onestà, allora cerchiamo di metterci dal punto di vista dell'utilità dello studente, quindi è un materiale portato alla conoscenza di studenti. Quindi mi sentirei di dire che questa collana, poi non so la tua opinione, ma questa collana include tutta una serie di nomi che devono essere portati in qualche modo e quindi sintetizzati. Quindi questa era la prima domanda. La seconda è sempre a proposito di onestà, una visione estremamente ideologica ci pone in situazioni imbarazzanti nel trattare di Laban. Io penso però che, come nel caso degli scienziati, ieri ho accennato appunto ad atteggiamenti degli scienziati, è vero che è importante raccogliere gli archivi?
No, non sorrido alla domanda, dicevo vorrei essere là.
Wow, sì. Allora, nel caso appunto per esempio del nostro Forsyth, ma anche nel caso di Laban, alcune espressioni sono equazioni o sono scoperte o sono aperture. Nel momento in cui io dico una ruota, esiste la ruota rispetto a un mezzo di locomozione quadrato, ho parlato di una ruota, che poi nel mio archivio ci siano o non ci siano 1000 libri o come sono giunto alla scoperta della ruota, questo fa parte appunto di una riflessione. Allora, perché parlare di aura attorno a Laban, come parlare delle sue scoperte, di ciò che hanno significato in Inghilterra, ed è proprio l'Inghilterra a sperimentare la positività delle sue idee sulla community dance o altre forme di danza che lui ha sicuramente aperto a partire dal Sartre, portando avanti un discorso.
Je dois traduire et répondre ensemble. Oui, c'est important. Je pense que l'idée d'un éditeur comme Routledge de produire des volumes, on les appelle manuels, mais enfin, je dirais plutôt, voilà, source book, c'est vraiment le terme. Il porte les sources, mais sans mettre en alerte le lecteur, quoi que ce soit, son niveau. De qu'est-ce que c'est une source dans la recherche en danse et qu'est-ce que c'est une source dans le cas de la recherche en danse labanienne, c'est assez difficile. C'est une mauvaise éducation et c'est une... Ça, c'est Patricia, je fais l'écho. Je pense que c'est une éducation qui n'a aucun sens aujourd'hui, dans ce sens-là. On peut faire une sélection, on fait toujours des sélections. La façon de présenter théoriquement ce qu'on a fait et ce qui a été choisi et sélectionné pour ce source book et ce qui est resté dehors doit obligatoirement être dans une introduction qui met en condition le lecteur de savoir qu'est-ce qu'il va apprendre et comment et pourquoi. Ça, c'est en général important pour un livre, mais ce qu'on appelle un source book devient déjà comme genre éditorial quelque chose de très potentiellement très riche, mais aussi assez dangereux. Et dans le cas de Laban, moi, je trouve que le volume sur Pina Bausch est assez terrible. Et que je ne peux pas imaginer que les futures générations connaissent l'univers de la pensée et de l'activité de Pina Bausch par ce livre, à travers ce livre, comme source. Et c'est la même chose pour laquelle je dis que toute ma présentation, ce n'est pas le jugement de ce que fait Valérie Preston-Darlop ou les autres, mais c'est de dire que s'ils continuent à faire leur parcours sans aucun point d'interaction avec la recherche en danse, je me demande tout d'abord qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la recherche en danse n'arrive pas à arriver à ce niveau du dialogue avec ceux qui se réputent soi-même les héritiers majeurs d'une tradition, en ce cas la Banienne? Et comment est-ce que c'est possible qu'en 2014, de grands éditeurs, Routledge Dance Book, n'aient pas un comité scientifique fait aussi de historiens et qui ont la capacité de regarder à l'histoire à partir d'une position théorique et méthodologique claire? On peut tout accepter, on peut donner la voix à tout le monde, mais en spécifiant quelles sont les méthodologies en jeu et quels sont les points de départ théoriques. Tout le monde travaille dans un univers théorique. Valérie Preston-Darlop le fait. La conscience du degré de notre orientation théorique est moins forte si l'on n'a pas une formation dans ce cas-là. Et c'est pour ça que je pense que le rôle des éditeurs pour la recherche en danse est encore énorme. Et ça peut être un rôle ou un pouvoir à exercer. Et c'est ça, à mon avis, le problème que la communauté des chercheurs en danse doit avoir très très clair. Hier, on a discuté la possibilité de publication des actes de colloque, qui n'est pas seulement un détail de quelle forme vont-ils avoir, mais c'est marquer le territoire, signer sa propre présence comme discipline pluraliste, démocratiquement accueillante de différentes perspectives et sujets, mais qui doit de plus en plus avoir la conscience que ça n'existe pas une recherche en danse sans une conscience théorique de ce qu'on est en train de faire. Et pourquoi et pour qui? Je pense que le temps est terminé. Mais...
Oui, le